pour lui demander à Stéphane si tu veux prier.
Merci Monseigneur pour ce culte ce matin. Merci pour cette possibilité de se réunir.
Eh bien, nous allons prendre le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 2. Et l'on va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors, vous pouvez dire ma fille, hein. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches, la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. N'est pas la première fois que je parle de la sagesse. Il y a deux dimanches, j'avais déjà parlé de la sagesse et je pense aujourd'hui continuer. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'est la sagesse. C'est le problème, notre problème souvent, c'est que nous ne savons pas ce qu'est la sagesse. Nous sommes dans un monde qui a fait de la folie son bien le plus précieux. Alors, il y a même des émissions, je ne vous donnerai pas les noms et je ne vous dirai pas tout ce qu'ils disent, mais où la folie est la règle. Si vous faites une action folle, eh bien, cette action-là va vous être comptée comme vraiment vous êtes vraiment quelqu'un d'intelligent. Vous avez vraiment fait ce qu'il fallait faire. Mais la parole de Dieu nous enseigne un tout autre comportement. C'est la parole de Dieu nous dit qu'il faut être des sages. Dans ce monde qui préconise la folie comme règle de vie, il y a beaucoup de gens qui regardent le bouddhisme, on va vers le bouddhisme, comme étant le summum de la sagesse. On vous dit, voilà, il faut devenir des sages, mais c'est une sagesse orientale, c'est une sagesse de l'autre côté du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu, eh bien, celle-là, on n'en est pas tellement passionné. C'est pas celle qui nous attire. C'est malheureusement, dans ce monde perdu, ce monde corrompu, eh bien, ce que l'on appelle bien, il l'appelle mal. Et ce que nous appelons mal, il l'appelle bien. Il y a un changement de choses. C'est-à-dire que nous faisons des choses qui vont contre notre bien-être, contre notre nature, contre les progrès de la société, et tout cela, eh bien, est appelé sagesse. Et si nous disons, mais non, ça, c'est pas de la sagesse, on vous regarde et on vous dit, ah, mais vous dites des choses, c'est de la discrimination, c'est très grave ce que vous dites. Mais non, on ne parle pas comme ça, et vous vous dites chrétien en disant des choses comme cela? On nous accuse comme si nous étions des coupables, parce que nous disons, mais ce que vous faites est une folie. Ça s'appelle, ce sont d'autres mots pour dire la folie. Tandis que la parole de Dieu, eh bien, nous enseigne la sagesse. Et quand vous sondez la parole de Dieu, et je vous encourage à avoir plus qu'une lecture de la parole de Dieu, prenez le temps de sonder et de méditer la parole de Dieu. Il est nécessaire de savoir que dit Dieu réellement dans telle situation. Et vous savez, Dieu ne parle pas de voyage pour aller de Paris à Marseille, par exemple, ou d'une fusée qui va sur la Lune, ou de choses comme cela. Mais néanmoins, quand il est question de voyage aussi, alors c'est pas un voyage pour Paris-Marseille, mais il y a un peuple qui a voyagé à travers le désert, de l'Égypte à la terre d'Israël. Vous avez, ce n'est pas aller sur la Lune, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. C'était des millions de personnes qui avaient été élevées dans l'esclavage et qui brusquement étaient libres. Ils ne savaient pas quoi faire de cette liberté. Et il a fallu que Dieu, eh bien, s'occupe de ce peuple et donne un chef pour diriger. Et il a fallu énormément de sagesse pour faire toutes ces choses. Et si vous méditez ces textes, par exemple, de la sortie d'Égypte et tout cela, eh bien, vous verrez toute la sagesse de Dieu, toute la grandeur de Dieu, toute la puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde de folie, une immense folie. Et nous, eh bien, nous avons la parole de Dieu pour nous conduire. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ne pensez pas que vous êtes plus sage et plus intelligent que les autres. Si nous avons quelque chose, c'est par rapport à ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné sa parole. Et c'est parce que nous marchons selon sa parole qu'il y a de la sagesse. Parce que je peux dire une chose, si nous ne connaissions pas Dieu, si nous n'étions pas nés de nouveau, il est plus que probable que nous serions dans ce monde en train de faire les mêmes choses que ce monde. Dieu a pris soin de nous. Un jour, nous avons entendu l'Évangile. Un jour, nous avons été sauvés. Un jour, nous avons été rachetés de nos péchés. Nous étions les mêmes que ceux qui sont à l'extérieur. Nous étions aussi des pécheurs. Nous étions aussi perdus. Et nous étions aussi fous, aussi insensés qu'eux. Mais un jour, eh bien, nous avons reçu la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de nos péchés. Nous avons été lavés et réconciliés avec Dieu. Et ce jour-là, eh bien, les choses ont été différentes. Nous sommes nés dans la lumière de Dieu. Les choses se sont éclairées. Et il y a des, c'est mon expérience personnelle, il y a des choses, mais je me suis dit, mais comment tu as pu les faire? Comment as-tu pu aimer tout ça? Comment as-tu pu être passionné pour ça? Et je me dis, mais c'est pas possible. J'étais fou, quoi. Mais oui, j'étais fou. J'étais insensé. Peut-être pas de la folie à m'enfermer dans une maison avec des serrures et tout cela, mais néanmoins, j'étais insensé. Comme ce monde. Exactement la même chose. La seule différence, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé et il a changé ma vie et il a changé votre vie. Quand vous êtes né de nouveau et vous êtes réconcilié avec Dieu, Dieu a changé votre vie. Vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Dieu. C'est, nous étions dans les ténèbres, exactement comme les autres. Nous ne voyons pas clair. Mais maintenant, oui, nous voyons clair. À cette époque, eh bien, nous étions perdus et maintenant nous sommes sauvés. C'est très très important, vous savez, de voir là où nous sommes, là où nous étions et ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu, par l'effet de la miséricorde de Dieu. Alors, si vous regardez bien le texte que nous avons lu, vous trouvez beaucoup de un petit mot, oh, qui n'est pas l'air de grand-chose. Il n'a juste que deux lettres, deux lettres. Et je n'ai pas compté le nombre de fois où il revient, mais il revient souvent. C'est le si. C'est-à-dire que nous avons l'initiative. Voilà. On a parlé tout à l'heure du libre arbitre. Eh bien, ce si parle du libre arbitre. Eh bien, nous sommes capables de choisir et de dire si tu fais ceci, si tu fais ça. Alors tu auras comme conséquence. Et vous avez le verset 5, alors tu comprendras. C'est, et puis, c'est le, vous avez alors ensuite des car et pour aussi. C'est des mots qui ont une très grande importance, qu'on n'emploie pas, hein, on ne les exprime pas facilement ou souvent, mais ce ne sont pas les mots que l'on souligne en général. Mais ils sont d'une importance capitale dans notre texte. C'est si. Si mon fils, ma fille, tu choisis. C'est ce que veut dire la parole de Dieu. Si tu as pris la décision. Si tu veux. C'est-à-dire que tu as la chose est dans ta main. C'est-à-dire que, imaginons que c'est un père qui parle. C'est Salomon qui a écrit et il était père. Malheureusement, ça n'a pas été bien efficace pour son fils. Mais son fils n'a pas fait ce qu'il a dit. Mais il lui dit, si tu travailles, si tu fais ceci, si tu es fait cela, alors tu auras comme conséquence telle et telle chose. C'est nous sommes responsables de nos actions et nous subissons l'effet de nos actions. C'est clair. C'est le si je cambriole une banque, un jour il y a quelqu'un qui va venir me taper sur l'épaule et me dire écoute, ta place elle est en prison. Si je me comporte comme il faut, eh bien, il y a quelque chose dans ma vie qui va me dire c'est bien. Je vais avoir une bonne conscience. Il y a toujours des conséquences à nos actions. Et Dieu dit si. Et nous avons besoin d'apprendre que la parole de Dieu, eh bien, elle est conditionnelle. Si nous agissons d'une certaine manière, eh bien, nous avons les conséquences de ce que nous faisons. C'est si vous aimez Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez marcher à la lumière de la parole de Dieu, si vous voulez appliquer la parole de Dieu à votre vie, vous en aurez des avantages. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez des désavantages. C'est toujours la condition. C'est conditionnel. Si nous faisons une certaine chose, nous obtenons un résultat. C'est si je, par exemple, je mange trop, eh bien, je vais être malade. Si je fais telle chose, j'aurai. Si par exemple, je bois 1 litre de rhum, je serai ivre. Si je fais ceci, j'aurai. Si je ne le fais pas, si je ne bois pas ce fameux litre de rhum, eh bien, je vais rester dans le contrôle de ma vie. Et je vais savoir où je vais et ce que je fais. C'est toujours, nous sommes responsables. Nous faisons des choses, nous faisons des actions et nous emportons les responsabilités. Et dans ce passage, eh bien, tout cela est mis en évidence. Par exemple, c'est « si tu reçois mes paroles ». Alors, imaginez que ce n'est pas Salomon qui parle, mais c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas une imagination, c'est la réalité. Parce que celui qui a inspiré Salomon pour écrire ses paroles, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc c'est Dieu. Et donc c'est Dieu qui vous parle. Et alors vous êtes devant Dieu et vous écoutez ce que Dieu a à vous dire. Et il vous dit « si ». Alors c'est pour cela que ce n'est pas seulement des fils, mais c'est aussi des filles. Alors les dames et les demoiselles et les jeunes filles, eh bien, peuvent se trouver concernées par ce qui est dit là. C'est-à-dire que Dieu lui-même vous parle. Et à plus forte raison, si vous êtes né de nouveau, vous êtes réconcilié avec Dieu, vos péchés ont été lavés, eh bien, Dieu vous parle. Et il dit, si tu reçois mes paroles, si tu reçois mes paroles, c'est pas simplement si on les entend et si on les a même mémorisées, mais si tu les reçois, si par exemple tu les assimiles. C'est comme, par exemple, je parlais tout à l'heure de nourriture, eh bien, j'ai mangé. Cette nourriture, eh bien, va être digérée, assimilée, et elle va faire partie de mon corps. Elle va nourrir mon corps, et une partie va nourrir et va donner de l'énergie, mais une autre partie va devenir, renouveler mon corps. Et c'est vrai pour la parole de Dieu. Elle est une nourriture qui travaille dans notre vie, qui change nos pensées, qui nous amène plus loin avec Dieu, qui même peut changer votre comportement. Dieu commence par changer nos pensées. Et au fur et à mesure, eh bien, notre comportement change. Il y a une manière de voir, il y a une manière d'être différente. Je me rappelle, c'était à Toulouse, peut-être que quelqu'un s'en souvient. Il y avait un homme qui mendiait au pied de l'escalier parce que c'était dans l'entresol. Il y avait un escalier, il y avait un mendiant. Et alors, on avait distribué juste en dehors du passage, sur la place Wilson. Et puis, on distribuait tout cela et les gens prenaient et puis jetaient. Comme d'habitude, les traités étaient jetés par terre. Il y avait beaucoup de traités qui étaient jetés. Et cet homme qui était mendiant, eh bien, en a pris un jour. Et ça, on l'a pris plus tard. Et On l'a vu, puis un jour on l'a plus vu. Et puis peut-être 2, 3 ans plus tard, on l'a revu. Mais il était bien habillé. On ne l'a pas reconnu. Il a dit, vous ne vous rappelez pas le mendiant qui était au pied de l'escalier? Alors, je lui ai dit, oui, en effet. Et il a dit, eh bien, c'est moi. J'ai pris un traité qui était jeté par terre. Je l'ai lu et j'étais sauvé. J'étais changé. Alors, j'ai mis tout en règle, toute ma vie en règle. Tout a été transformé. La lumière est entrée dans ma vie. Vous voyez, il y a la puissance de la parole de Dieu. Elle fait de vous quelqu'un de différent. Dieu nous donne de nouvelles pensées, de nouvelles motivations. Ce monde dit, mais vous n'êtes plus libre, hein? On vous a servi. Vous avez les pensées bibliques. Vous êtes dans une secte. Ah, oh. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous regardez la télévision, on vous fait passer des messages, hein? Regardez toutes les affiches pour voter. Vous savez pourquoi il y a tant d'affiches pour voter? Parce qu'ils ont prévu qu'il y aurait très peu de gens qui vont voter. Parce que les gens se désintéressent totalement à l'Europe, il y a de plus en plus de gens contre. Alors, il faut motiver les troupes pour aller voter. Alors, on vous cherche à vous motiver. Et s'il n'y a pas de lavage de cerveau là, je peux vous dire, il n'est nulle part ailleurs. Et on nous accuse à nous après, d'avoir des principes bibliques et de ne pas. On vous dit, mais vous n'êtes pas libre parce que vous êtes contre l'avortement. C'est la Bible qui dit que vous êtes contre l'avortement, bien sûr. C'est parce que la Bible dit que non. Eh bien, on vous dit, ah, vous voyez que vous n'êtes pas libre? Oui, mais on vous a tellement fait un lavage de cerveau pour l'avortement que vous finissez par croire que c'est tout à fait normal. C'est très logique qu'une femme devienne enceinte et qu'elle se fasse avorter et qu'un être humain aille à la poubelle. Excusez-moi, c'est comme ça, hein, il faut vous dire la chose telle qu'elle est. Eh bien, on vous dit, ah, mais ça, c'est vraiment l'expression de la liberté et du bon sens et de la sagesse. Mais comme la sœur a prié tout à l'heure, il y a des mères, des femmes qui voudraient être mères et qui ne le sont pas. Et malheureusement, et elle voit avec tristesse qu'il y a des femmes qui font mettre leurs enfants à la poubelle. Et ça, c'est quelque chose. C'est de la sagesse, ça? C'est de la folie. C'est de la folie. Et la parole de Dieu, elle le condamne. Et je suis du côté de la parole de Dieu pour le condamner. Et ce n'est pas être quelqu'un qui a un lavage de cerveau, mais c'est quelqu'un qui croit que c'est la sagesse même. Quand un enfant est conçu, eh bien qu'il aille jusqu'au bout et qu'il devienne un être humain à part entière, qu'il ait vraiment aucune discrimination, quoi que ce soit. Ce monde essaye de nous convaincre et de nous subjuguer et de faire de nous des consommateurs. Et c'est parce que quand nous lisons la Bible, nous sommes de très mauvais consommateurs. Très mauvais consommateurs. Alors ce monde condamne l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu condamne le matérialisme comme une idolâtrie. Et ce monde préconise le matérialisme. On vous pousse à acheter, à être des consommateurs, 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 à fond. Vous êtes matraqués de publicité et de toutes sortes de choses. Où est le lavage de cerveau? Le lavage de cerveau, ce n'est pas la parole de Dieu, je regrette. Mais c'est tous ces médias qui nous matraquent avec toutes ces informations qui sont fausses. Nous ne trouvons pas le bonheur dans une nouvelle lessive. Vous en doutiez? Ah ben, on dirait pas. Parce qu'à la manière dont se passent les pubs, cette dame qui a une nouvelle lessive qui est tellement heureuse. Ah vraiment! Oh là là! Mais vous imaginez qu'elle est malheureuse? Mais non, elle est remplie de bonheur. Ça se voit. Ça se voit. Et comme tout le monde veut être heureux, alors on se dit si j'achète telle marque. Mais je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un ami qui vendait pour une maison comment dire, de lessive. Il vendait de la lessive en porte-à-porte. Bon, ça remonte maintenant à bien des années. C'était de la lessive en copeaux. C'était du savon et c'était des copeaux. Alors, il vendait des sacs. Vraiment, c'était écologique au plus haut point. Le sac était le moins de couleurs possible, minimum. C'était un sac. Il vendait ça, et il allait et il est passé. Donc, il a vendu dans une certaine maison le sac. Et alors, la dame en a même pris deux ou trois et vraiment elle a fait un chèque. C'était. Hein. Et alors, il arrive dans sa maison de, disons, à l'entrepôt ou je sais pas. Et il a dit, ah oui, j'ai vendu. Alors, j'ai une dame qui m'a acheté de la lessive. Je peux vous dire, ah bon, c'est intéressant. Alors, il a noté, il regarde le chèque. Il dit, mais vous connaissez mon nom à moi? Alors, il dit non. Mais regardez, c'était sa femme qui avait jeté la lessive. Et il a dit, mais tu sais, tout ça, toute cette lessive, c'est la même chose. C'est que ce soit une marque ou une autre. C'est moi qui les fabrique. C'était Monsieur Levert. Voilà. C'était en France la grande, 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 au-dessus de tout, après toutes les marques et tout, ben c'est Monsieur Levert qui lui avait. Et lui, il faisait de la promotion pour Monsieur Levert. Voilà. Et alors, mais pour vous dire, ce n'est tout cela, c'est du mensonge. On essaye de nous faire croire que si vous avez une nouvelle voiture, vous serez heureux. Une nouvelle maison. Si vous avez un ceci, si vous avez ça, si vous avez fait du sport, si vous faites une chose, si vous faites. Mais tout, tout, tout. On vous dira, vous serez heureux. Mais tout cela, c'est du mensonge. Le bonheur n'est pas dans toutes ces choses. Le bonheur, il est dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et le bonheur, il est dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu. Quand on marche avec Dieu, quand on marche à sa lumière, l'homme est en communion avec son Créateur. C'est parce que nous sommes en paix avec notre Créateur que nous sommes heureux. Parce que l'homme est une créature et nous avons besoin de notre Créateur pour être heureux. Et dans ce monde qui ne veut pas du Créateur, et qui veut absolument un monde commercial, un monde qui vit dans le, hein, pour vendre et acheter et s'enrichir, eh bien, ils ont été obligés de mettre le Créateur en dehors de la vie des humains. Et si bien que les gens ne sont pas heureux. Et il faut une chose, et puis une autre, et puis une autre. Et on espère bien après être heureux. Mais ne croyez pas, le bonheur n'est pas dans ces choses. Le malheur n'y est pas non plus. C'est l'utilisation qui fait parfois notre bonheur ou notre malheur. Mais c'est en Dieu qu'est notre bonheur, le vrai bonheur. Après, Dieu ne nous prive pas de ces choses. Il ne dit pas, n'achetez pas des maisons, ou n'achetez pas une voiture, ou n'achetez pas ceci, ou n'achetez pas cela. Dieu ne dit pas ces choses. Mais c'est lui qui doit être le premier. Et c'est dans sa paix et dans sa communion que vous pouvez faire toutes ces choses. Et alors, quand vous êtes en communion avec Dieu, alors, oui, vous pouvez dire, ah oui, mais ça ne m'intéresse pas. Cette chose-là, je n'ai pas la paix pour le faire. Il y a des maisons, des gens qui ont eu de la paix pour acheter une maison, et d'autres qui n'ont pas la paix pour avoir une maison. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Dieu sait que parfois, pour une personne, ce sera dangereux de posséder telle chose. Parce qu'on va s'y attacher, le cœur va pas. Ou Dieu prévoit que nous soyons un jour ailleurs, et puis la maison, eh bien, nous serait un grand embarras si nous l'avions. Donc il faut bien, bien faire attention. Ces choses matérielles ne rendent ni heureux ni malheureux. Elles sont neutres. Ce qui rend heureux, c'est la présence de Dieu. Et il est dit, si tu reçois mes paroles, et vous lisez la parole de Dieu, et vous laissez convaincre par la parole de Dieu. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Et vous êtes capable d'être convaincu par Dieu. Vous ne lisez pas pour trouver ce que vous aimez, mais pour ce que Dieu va vous dire. Et c'est très important. Beaucoup de gens cherchent un verset. Ils cherchent une parole qui leur permette de faire ce qu'ils ont envie de faire. Si vous cherchez, lisez comme cela, alors ne croyez pas que vous allez être béni et que Dieu va vous parler. Vous allez trouver un prétexte, mais vous n'avez pas trouvé la vérité, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui va vous encourager, vous fortifier, qui va vous amener plus loin. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut lire dans un esprit de soumission et avec le désir de faire ce que Dieu veut pour vous. Voilà. Vous lisez pour comprendre, pour que votre vie soit changée. C'est une bonne parole quand vous priez avant de lire la Bible, c'est de dire Seigneur, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre, pas ce que je veux entendre, mais ce que toi tu veux me dire. Et nous, parfois, on aimerait bien entendre certaines paroles parce qu'elles vont dans le sens de nos passions et de nos désirs. Mais on a besoin d'entendre Dieu nous dire ce dont nous avons besoin. Et vous ne savez peut-être même pas de quoi vous avez besoin. Quelle est vraiment la chose qui est nécessaire pour votre vie aujourd'hui? Quelle est la parole qui va vous encourager, vous fortifier vraiment? Et si tu gardes avec toi mes préceptes, ah, c'est par rapport à la parole de Dieu de nouveau. C'est si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est-à-dire si tu les gardes précieusement. Et la mémorisation de la parole de Dieu est une démarche très importante. C'est vous garder avec vous la parole de Dieu. C'est pas que vous avez, elle est dans un livre, elle est dans votre cœur. Cette parole, vous la gardez précieusement. Il dit, si tu gardes avec toi mes préceptes, alors il y a des personnes qui ont mémorisé, qui ont appris par cœur, et ils ne gardent pas dans leur cœur. Hein. Mais quand on a mémorisé, eh bien, on garde plus facilement. Mais il y a un amour pour la parole de Dieu. C'est de cela que je parle. Hein. C'est un désir intense de connaître la parole de Dieu, de savoir ce qu'elle est, ce qu'elle va nous dire, comment nous allons nous changer les choses. Et il y a un désir, quand on ouvre notre Bible, eh bien, on dit, ah, je vais lire la parole de Dieu. Il y a une joie intense, quelque chose de profond. C'est, vous allez ouvrir la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur. Je désire garder précieusement tes paroles. Dieu parle. Et puis vous lisez un passage qui vous parle, qui vous console, qui vous affermit, qui vous donne une direction. Alors je vous conseille de le noter. Parce que si vous êtes comme moi, d'ici une semaine, vous l'aurez oublié. Mais si vous l'avez noté, avec la date et avec l'occasion, eh bien, les choses vous rappelleraient beaucoup mieux. Garde avec toi mes préceptes. Il est dit si, hein, tu gardes avec toi mes préceptes. Et puis, un autre, le verset 2, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu rends ton oreille attentive, c'est-à-dire que naturellement, notre oreille ne l'est pas. Et nous sommes inattentifs. Dieu parle et il peut toujours parler. Mais il y a, comment dire, on se saisit et on dit, maintenant je lis la parole de Dieu. C'est Dieu dit ça. Et on rend son oreille attentive. C'est une, comment dire, on se prend en main. On n'est pas passif. Je ne trouve pas dans la Bible une mention d'une certaine passivité par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu exige que nous soyons actifs. Et on n'est pas passif. Il y a des gens qui font une lecture biblique. Voilà, ils ont lu. Comme ils auraient lu le journal, peut-être qu'ils mettraient plus d'attention, hein, dans la lecture du journal. Mais dans la parole de Dieu, eh bien, ils restent passifs. Mais là, il est dit, si tu rends ton oreille attentive, c'est-à-dire si tu te contrôles et tu dis non, Dieu dit vraiment. Et il y a une lutte, il y a un combat. Il y a ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Ce qui est charnel vous dit, oui, mais attends, ça c'était pour les apôtres, hein, et maintenant on est au 21e siècle. Tu rends ton oreille attentive, mon frère ou ma sœur. Et ces paroles-là, elles n'ont pas changé. Parce que celui qui a parlé, celui qui a prononcé ces paroles, c'est le Dieu immuable. Il est vrai hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. La parole de Dieu subsiste éternellement. Ce que Dieu a dit hier, c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous savez, c'est un principe juridique. Une loi ne cesse jamais d'exister. Est-ce que vous saviez cela? C'est très important. Même une loi très ancienne, même si c'est une loi qui date du début de la République française, cette loi est toujours en vigueur. Ce qu'il faut pour annuler une loi, c'est une autre loi. C'est une loi d'abrogation. C'est-à-dire qu'une loi est immuable tant qu'elle n'a pas été annulée par une autre loi. Une fois qu'une loi est lancée et promulguée, eh bien, elle a une durée de vie éternelle si on ne met pas une fin à cette loi. Et quand vous lisez la parole de Dieu, c'est la même chose. Les lois humaines sont calquées sur la loi divine. C'est-à-dire que Dieu a parlé et c'est toujours vrai. Ce qui était vrai il y a 2000 ans ou 3000 ans du temps de Moïse, c'est encore vrai aujourd'hui. 3000 ans, c'est le temps de David. C'est beaucoup plus ancien, Moïse. Mais ce qu'il y a, c'est que vous lisez et vous dites « Dieu a parlé ». Mais ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure que Dieu parle, eh bien, ce qui est, par exemple, la loi de Moïse a été changée parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Il y a des choses qui ont été changées. C'est-à-dire que nous n'offrons plus les sacrifices à Jérusalem comme les Juifs le faisaient. Mais nous faisons le sacrifice, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli. Il n'a pas aboli la loi, il a accompli la loi. Donc il l'a rendue parfaite. Et le Seigneur Jésus, eh bien, est le meilleur sacrifice. Et quand vous lisez la Bible, les paroles sont toujours actuelles. Parce que jamais Dieu n'a pas dit que c'était annulé. Il a dit, il a parlé. C'est quand vous lisez des textes bibliques sur la prière, sur la lecture de la Bible, sur le témoignage, sur votre manière d'être, toutes ces choses-là, eh bien, c'est toujours vrai. Parce que c'est un caractère légal. C'est comme une loi. Dieu n'a pas changé. Et la loi est toujours en vigueur. Et si nous ne l'accomplissons pas, nous transgressons. Et nous sommes coupables devant Dieu de ne pas avoir suivi sa parole. C'est parce que c'est Dieu qui a parlé. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Et si Dieu a parlé, alors cela mérite d'être notre attention et que nous soyons vigilants. Qu'est-ce que Dieu a dit ? C'est très important de savoir ce que Dieu a dit. Parce que on ne peut pas dire devant Dieu, un jour on va se trouver devant le tribunal de Christ, et on va dire, oh ben, je ne le savais pas. Peut-être que c'est vrai, mais Dieu nous tient responsables de ne pas avoir cherché, de ne pas avoir approfondi, de ne pas avoir voulu savoir. Et c'est pour cela qu'il est dit, si tu rends ton oreille attentive, c'est-à-dire qu'on est responsable. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et il faut que nous en tenions compte dans notre vie. On ne peut pas dire, bah oui, ça, ce verset, on verra plus tard. Faites ça avec le code de la route. Faites ça avec... quand vous avez allumé le gaz, et bon, vous l'allumez, je mettrai une allumette plus tard pour... Mais vous dites, aujourd'hui il neige, je mettrai un manteau plus tard. Vous ne pouvez pas transgresser à certaines lois. Il y a des lois physiques, des lois de la vie de tous les jours. C'est quand vous êtes dans certaines situations, vous ne dites pas, je le ferai plus tard. Vous faites ce que vous devez faire, parce que sinon vous avez un accident, vous avez un problème, vous aurez quelque chose qui va vous en subir les conséquences. C'est vrai pour les lois spirituelles. Il y a des vérités spirituelles. Alors, on ne dit pas des lois spirituelles. On dit des vérités spirituelles ou des paroles, la parole de Dieu. Mais ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que Dieu a parlé et c'est très important de le suivre. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère. C'est... Alors, C'est pour cela qu'il est dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, on rend son oreille attentive, c'est-à-dire qu'on éduque son oreille et on dit, je vais être attentif, je vais chercher ce que dit Dieu. Recherchons les paroles de Dieu, sondons nos voies et revenons à l'Éternel. C'est-à-dire que c'est une démarche personnelle, voulue, adulte. C'est qu'on se, comment dire, on s'est concerté avec soi-même et on a dit, voilà, je le ferai. Je vais prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est le ne restez pas passif devant la parole de Dieu. Ne restez pas passif, surtout pas. Parce que Dieu parle. Et Dieu parle vraiment. Et c'est Dieu qui parle. C'est pas un homme. Et si un homme parle, on en tient compte la plupart du temps. C'est surtout s'il a un uniforme. Et surtout quand il est en uniforme. Mais Dieu est bien plus grand que cela. Si nous tenons compte de la parole des hommes, à plus forte raison la parole de Dieu. Dieu a parlé. Et il s'agit de rendre notre oreille attentive. Comme je vous l'ai dit, il faut de la volonté. On décide. Je pense que le problème, des grands problèmes de notre siècle, c'est justement que les gens attendent l'avenir, ils attendent de voir. Ils attendent pour plus tard, toujours. Mais ce n'est pas pour la parole de Dieu, ce n'est pas cela. C'est quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Dieu parle, n'endurcissez pas. Ne remettez pas à plus tard, parce que Dieu a parlé. Et c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Rappelez-vous, on tient compte des hommes et on prend au sérieux certaines affirmations des hommes. À plus forte raison, les affirmations de Dieu. Dieu parle dans sa parole. Et il y a malheureusement des personnes qui vous disent « Oui, mais ça, vous savez, c'est pas tout à fait... Ou mais vous croyez la parole de Dieu inspirée ?» Non, elle n'est pas tout à fait inspirée. Certaines paroles, oui, mais d'autres, non. Et on vous donne toutes sortes de bonnes raisons pour douter que la parole de Dieu soit la parole de Dieu. C'est toujours Satan a voulu mettre en doute la parole de Dieu. Vous savez comment a commencé le premier péché ? Mais en mettant en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est comme cela que les choses ont commencé. Dieu a-t-il réellement dit ? Il a mis un doute sur la parole de Dieu. Mais la réponse d'Adam aurait été « Dieu a vraiment dit. Je l'ai entendu. Il a dit ça. » C'est-à-dire que je ne prends pas de liberté avec ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que je prends une partie de ce que Dieu a dit et je laisse l'autre partie. C'est malheureusement... Eh bien, Adam a discuté la parole de Dieu avec quelqu'un qui était complètement incompétent pour en discuter, et lui-même l'était, incompétent. Et ensuite, c'était quelqu'un de malveillant qui voulait tromper et détourner la parole de Dieu pour faire tomber dans le péché, désobéir à la parole de Dieu. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Et le premier péché était de remettre en question, de ne pas avoir rendu son oreille attentive à la parole de Dieu. De ne pas avoir dit, mais Dieu a vraiment dit, j'ai entendu quand même Dieu me parler. Il m'a dit ces choses-là. C'est pas seulement que j'ai cru entendre, c'est que Dieu a vraiment dit. Donc il lui a dit, est-ce que tu as bien entendu ? C'est quelque chose comme cela, hein. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Est-ce que tu as bien entendu ça ? Moi, tu es un peu sourd, hein. Parce que moi, je crois que tu dois faire attention. Non, c'est pas... Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Et détournez-vous complètement de ce qui remet en question la parole de Dieu, si peu que ce soit. Si quelqu'un vous laisse entendre, oui, mais vous savez, ces passages, oui, mais il ne faut peut-être pas... Non, mais vous prenez... Il y a même un passage biblique qui est favori. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah, qu'est-ce qu'ils aiment ce verset ? C'est heureusement qu'il est écrit pour eux, hein. Ben oui. Alors, et puis il y en a un autre aussi qui est beaucoup aimé. C'est vous avez été appelé à la liberté, ne faites pas, ne devenez pas esclave des hommes. Ah oui, et oui. Donc pleine liberté. On n'écoute plus rien, on fait ce qu'on veut. Moi, je me rappelle, c'était quelqu'un qui l'a cité. J'étais dans une librairie évangélique, en train de choisir des livres, un monsieur avec une voix assurée, vraiment. Monsieur, je sais tout et je suis convaincu que j'ai raison, même si j'ai tort. Il a dit, moi, je vais fréquente aucune église, je vais dans celle du dimanche, ah, tiens, je vais aller là. Ah, tiens, non, non, je vais aller là. Et parce qu'il a dit, ne devenez pas esclave des hommes. Alors, je ne veux pas être esclave des hommes, mais fréquenter une église régulièrement et participer à la vie d'une église, ce n'est pas être esclave des hommes, c'est obéir à la parole de Dieu, tout bêtement. Tout simplement, pas plus que ça. Ce monde dit, vous êtes stupides. Nous, on va manger là où ça nous convient. Eh bien, on ne fait pas que être passif dans une église. On est aussi actif dans son église, dans son église. Et il y a on vous dit, c'est la liberté. Oui, mais quand vous êtes partout, vous n'êtes actif nulle part. Vous n'êtes concerné nulle part. Vous recevez, vous emmagasinez de partout, mais en fait, vous n'êtes jamais vous donnez quelque chose partout. Il n'y a que quand on fréquente une église que là, on s'investit vraiment. Et c'est avec dans la régularité, on travaille à la vie de cette église. Mais ce monde va vous dire, mon nom. Et les chrétiens qui ont l'esprit de ce monde vous dire, mais non, oh, vous êtes esclaves là. Vous avez subi un lavage de cerveau. Ah, qui vous a lavé le cerveau pour que vous soyez dans une seule église? C'est pas un lavage de cerveau. C'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. C'est, comme je vous ai dit, eh bien, ce monde, c'est bien nous laver le cerveau. Mais son lavage de cerveau, ben, c'est logique, c'est normal, c'est pour la bonne cause. Tandis que si la parole de Dieu nous donne un enseignement et qu'on le suive scrupuleusement, eh bien, on vous dit, ah ben, vous êtes timoré, hein, vous n'êtes quand même pas à la hauteur. Vous ne vivez pas une vie humaine. La vie humaine, c'est de désobéir, c'est de faire ce qui vous plaît, de faire d'user de votre liberté pour faire de vous votre propre Dieu, votre propre chef, celui qui commande vraiment votre vie. Voilà. Mais si vous voulez que ce soit Dieu qui soit le chef de votre vie et que vous marchiez selon l'enseignement de la parole de Dieu, eh bien on va vous dire, mais vous avez subi un lavage de cerveau. Mais nous rendons notre oreille attentive à la sagesse, à la parole de Dieu. C'est un choix, c'est une décision. On dit, je vais lire la parole de Dieu pour être enseigné de Dieu. Je peux vous dire, un jour dans ma vie, j'ai décidé de le faire cela. Et j'ai pris la parole de Dieu et j'ai pris avec des carnets, hein, j'ai écrit des carnets, beaucoup de carnets. Et j'ai pris qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage vraiment et qu'est-ce qu'il dit pour moi maintenant. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois confesser un péché? Est-ce que je dois mettre ma vie en règle? Est-ce qu'il y a une direction? Un commandement positif de Dieu. Qu'est-ce que je dois changer? Et je peux vous dire, ce n'est pas vous rendez votre oreille attentive, c'est-à-dire que vous vous saisissez et vous dites, tu vas le faire, parce que je t'ordonne de le faire. Mais notre nature, ce qu'on appelle la vieille nature, n'a pas envie. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que parfois ma vieille nature, elle n'a pas envie. Mais vous, vous avez fait exactement. Vous dites non, c'est ce que Dieu dit qui compte et pas ce que ce monde dit. Voilà. Ensuite, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, donc hein, si tu inclines ton cœur, si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, fais-le. Et puis. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, c'est-à-dire que c'est pas seulement que l'on a décidé de le faire, mais on cherche et on fait comme avec la plus grande motivation. Bon, je peux vous dire, je ne suis pas motivé par les trésors, hein. Ce n'est pas quelque chose qui m'aurait vraiment convaincu de chercher la sagesse comme un trésor, parce que j'ai jamais été matérialiste et j'ai pas, même en tant qu'inconverti, je n'étais pas matérialiste. Donc, chrétien, je ne le suis pas non plus. Donc, il y a des choses qui ne me motivent pas. Mais si ce qui vous motive, il y a des choses qu'on va faire et on va même passer des nuits blanches, hein. Et je connais des personnes pour les jeux vidéo, ils vont. Hein, c'est la nuit blanche, pour eux, c'est pas un problème. Hein. C'est. Je vois des sourires. Vous avez compris ce que je veux dire. L'argent et l'or vous a pas passionné. Mais là, le jeu vidéo, oui. C'est. Eh bien, c'est plus qu'un jeu vidéo. C'est plus que la télévision. C'est plus que tout cela. C'est. Vous dites, je vais le faire. Je vais rechercher la parole de Dieu. Je vais rechercher ce que Dieu dit. Plus qu'on recherche un trésor, c'est, je peux vous dire, quand la parole de Dieu vous saisit, parce qu'au début c'est difficile, hein, il y a un combat, mais après, vous ne vous arrêtez plus. Et vous pouvez y passer des heures, vous pouvez y passer 8 heures, 10 heures, 15 heures dans la parole de Dieu, à méditer, à approfondir. Quand vous avez, la parole de Dieu vous saisit, je peux vous dire, elle ne vous laisse pas, hein. Ah, c'est une source de vie, c'est une source de joie et de bonheur que jamais, jamais, jamais aucun jeu vidéo va vous redonner. C'est beaucoup plus que cela. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, c'est notre Dieu. Et alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Parce que dans ce livre des Proverbes, il est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le on est voilà, c'est pas que vous avez la sagesse, c'est que vous avez commencé à avoir vraiment de la sagesse. Vous ne pouvez que faire des progrès à partir de là. Et vous comprendrez la crainte de l'Éternel. Donc je vous dis, la parole de Dieu, c'est la vérité. Méditez ce que Dieu vous dit. Approfondissez, recherchez, soyez passionnément accroché à la parole de Dieu. Tout ce qui vous détourne de la parole de Dieu, donnez-lui le nom que vous voulez. Moi, je vais vous dire, c'est mauvais. Ce qui fait que la parole de Dieu prend une autre place dans votre vie, c'est mauvais. Si vous aimez plus les commentaires sur la parole de Dieu que la parole de Dieu, je peux vous dire, les commentaires sont mauvais. Parce que le meilleur des commentaires de la Bible, c'est la Bible elle-même. Et c'est, vous avez besoin de la parole de Dieu. Et vous pouvez prendre de temps en temps un commentaire, mais il m'est arrivé parfois de dire, bon, ça je le sais. Vous refermez le livre, vous dites, bon, ça c'est pas important. Vous lisez la parole de Dieu, ah mais oui, mais c'est ça, Dieu dit ça. C'est pas besoin des commentaires des hommes, on a besoin de la parole de Dieu. Mais on lit la parole de Dieu en voulant faire la volonté de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu simplement pour la connaître, mais pour que cette parole travaille dans notre vie, pour qu'elle change notre vie, pour qu'elle nous amène plus loin avec Dieu. Et cela, le plus important. Et je peux vous dire, il y a des personnes qui vont vous dire, mais ça fait beaucoup de temps passé dans la parole de Dieu. Oui, d'accord, ça fait beaucoup de temps. Et c'est même parfois énormément de temps. Mais quel est le temps que vous passez à d'autres choses, à la télévision, aux jeux vidéo? Ou à ceci ou cela, ou à des romans, ou toutes sortes de choses. C'est. Vous pouvez, vous savez, en tant que chrétien, il y a des choses, vous pouvez vous en passer. C'est pas une obligation. Mais par contre, le temps de ces choses, vous pouvez le passer dans la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que ce n'est pas un combat, hein. Mais quand les mots qui sont employés, les expressions, si tu rends ton oreille attentive. Si tu fais ceci, c'est-à-dire qu'on se saisit et on dit tu vas le faire, mon vieux. Demande à Dieu la force, demande la sagesse, demande qu'il t'ouvre l'intelligence, qu'il te donne l'amour pour sa parole. Et c'est un combat, il y a un moment de combat, il y a un moment où Satan vient nous dire oui mais Dieu a dit, oui mais tu sais, on le met à la porte, on ne veut pas écouter ce qu'il a à nous dire. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. C'est le plus important. Et Satan et votre chair, votre moi, voudront toujours trouver des raccourcis et dire ben non, tu es fatigué, tu es pas ceci, tu es pas ça. Mais je vous dis, la parole de Dieu, c'est méditer, approfondissez, chercher, revenez dans les bonnes voies, reprenez le bon chemin, cherchez ce que Dieu dit dans sa parole. C'est cela le plus important. Rendez votre oreille attentive. Alors vous comprendrez certaines choses. Vous comprendrez la crainte de l'Éternel. Et là, dans le sens de comprendre, eh bien, c'est vous découvrirez la crainte de l'Éternel. Vous découvrirez ce que c'est réellement. Et vous découvrirez non seulement pas seulement comme une connaissance, mais comme une manière de vivre. C'est quelque chose qui va changer votre vie, quelque chose de différent. Et ça, c'est le plus important. Nous allons prier. Ô notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous te louons parce qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur. Nous te demandons que cette parole agisse en nous, que nous ayons cette soif de la parole, Seigneur, ce désir toujours plus grand de la lire, de la méditer, de l'approfondir, de regarder vers toi. Ô notre Dieu, nous nous confions en toi et nous nous attendons à toi. Nous remettons tout entre tes mains. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Nous te louons, Seigneur, parce que ce que tu dis et la vérité ne change pas. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour toi-même, parce que sur cette terre et pour l'éternité, tu es notre joie, notre plus grand bonheur, tout ce dont nous avons besoin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.